19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir chers amis auditeurs, nous sommes vendredi, qui dit vendredi? Comme tous les vendredis, vous le savez, c'est les informés des quartiers. Les informés des quartiers au sommaire de cette émission, durant une heure jusqu'à 20h. Et bien ce que je vous propose, c'est de revenir sur la situation, vous savez, concernant Lampedusa. On va parler des migrants, les migrants justement, avec cette crise migratoire, mais également aussi, tout simplement, cette crise politique européenne. Peut-on parler d'une crise? Peut-on parler aussi notamment d'un échec? Nous reviendrons aussi sur la déclaration de Jordan Bardella qui appelle Emmanuel Macron à ne pas accueillir un seul migrant. Ensuite, nous parlerons, vous savez, d'Al-Qaïda. Al-Qaïda qui a lancé un message en direction à la France, mais également aussi à la Suède. Alors Al-Qaïda, c'est le retour un peu d'Al-Qaïda, puisque ça faisait longtemps. Et quand je dis lance un message, c'est pas lancer un message, c'est menace. Elle profère des menaces contre la France dans une publication de propagande. Nous reviendrons sur ce sujet. Et enfin, si évidemment il nous reste du temps, nous reviendrons sur ce sondage qui place Marine Le Pen en tête au premier tour à cette élection présidentielle dans les années à venir, c'est-à-dire 2027. Est-ce que vous le partagez, ce sentiment-là? 0153 48 3000. Tiens, je voudrais vous entendre, chers amis auditeurs. Ça faisait un moment que je ne vous ai pas entendu. Vous m'avez manqué. Bah tiens, si le jingle il est prêt, c'était pas prévu, mais je vais le faire. Allez, on lance. Les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Les informés des quartiers, je vous donne la parole concernant la présidentielle 2027. Et si Marine Le Pen était à la tête de notre pays, était à la tête de la France, que penseriez-vous? Est-ce que, évidemment, beaucoup, je sais, hein, il y a encore quelques mois, étaient favorables pour que Marine Le Pen passe présidente. Ben, qu'est-ce que vous en pensez de ce sondage qui place à la tête donc Marine Le Pen? 0153 48 3000. Partout en France, je voudrais vous entendre venir ici nous faire part justement de ce que vous pensez, de votre témoignage. Cela dit, il est 19h02, vous savez, en attendant vos appels, puisque Solal vous récupère, on va lancer le face-à-face. Avec le face-à-face, vous savez quoi? Eh bien, tout simplement, c'est deux débatteurs, influenceurs, c'est parti, le face-à-face.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Et je vous attends, 0153 48 3000, les informés des quartiers. Jean-Pierre Colombier, si vous avez manqué, hein, ça faisait un moment. Hein. Comment ça va, mon cher Jean-Pierre?
Eh ben, ça va, après les vacances, et puis après tous ces événements terribles qu'on a connus à travers l'information, que ce soit le Maroc, la Libye, et puis les faits divers à Marseille qui n'en finissent plus de se multiplier, ouais, avec des victimes innocentes. J'ai une pensée émue pour les victimes innocentes, les familles qui sont endeuillées, alors qu'elles se trouvaient là, comme disent certains, au mauvais endroit, au mauvais moment, sauf que la dernière jeune femme, elle était tout simplement chez elle.
Oui, absolument.
Ce qui amène vraiment une certaine réflexion à avoir, d'urgence.
Jean-Pierre Colombier, qui est un ancien fonctionnaire de la police, ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui, il est comédien au théâtre.
Au théâtre, tout à fait.
Vous préparez?
Eh ben, on espère pouvoir jouer Art de Yasmina Reza, qui est une pièce magnifique. C'est un bijou de théâtre et donc beaucoup de travail en perspective.
Plein de bonnes choses. Face à vous, c'est le rédacteur en chef et le journaliste d'Opinion Internationale, c'est Radouane Courac. Bonjour Radouane Courac.
Bonjour Adil.
Comment ça va?
Très bien, et vous?
Super, tout va bien. On parlait en off justement de Marine Le Pen en tête du pays, Radouane qui nous disait non, Jean-Pierre Colombier qui rejoignait plutôt mon point de vue. Tout est possible. Vous êtes prêt à parler avec les auditeurs?
Sans problème.
Absolument.
Allez, on va accueillir Baya. Pas mal d'auditeurs, hein. Justement, on va les entendre. Baya du 93. Bonjour Baya.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous nous appelez de quelle ville du 93, Baya?
De Bondy.
De Bondy. On vous écoute sur le sondage qui mène en tête Marine Le Pen dans le cadre de la présidentielle 2027. Et justement, il y a Jean-Pierre qui est sur le plateau et Radouane. Donc, vous pouvez tous discuter ensemble. Allez, on vous écoute, Baya.
C'était juste pour faire une petite aparté. Je suis pas du tout étonnée, mais vraiment pas du tout, parce que c'était à prévoir. Cette montée de Marine Le Pen, elle est à prévoir déjà. On en parle déjà depuis 15 ans, c'est pas du tout d'aujourd'hui. Mais je pense qu'elle finira vraiment par y arriver. Quand on voit et qu'on entend, moi personnellement, je suis d'origine algérienne, avec tout ce que je vois de notre communauté, une fille qui se fait tuer chez elle,
C'est atroce, c'est atroce, je vous le dis. Vous savez quoi ? Jean-Pierre est originaire de Marseille. Est-ce que vous voulez bien échanger avec lui ? Parce qu'effectivement, il connaît. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous dites à Baya ?
Ben, écoute, d'abord, je la salue. Bonsoir, Baya.
Bonsoir, Jean-Pierre.
Oui, ben, on peut que déplorer ce qui est en train de se passer dans cette ville magnifique. J'y ai vécu, hein, je suis un Marseillais d'adoption. J'ai dénoncé sur plusieurs médias, et je continue à le faire, la situation catastrophique de cette ville. On a des innocents qui meurent, c'est absolument inentendable. Cette jeune fille, elle était chez elle, elle prend une balle dans la tête. Et je rappelle que, rappelez-vous, Baya, il y a aussi une mère de famille qui s'est fait tuer exactement dans les mêmes circonstances. Oui. Elle était assise à côté de sa petite fille de 10 ans. Elle aussi, elle prend une balle de Kalachnikov en pleine tête. Et on a des victimes collatérales comme ça, sans arrêt. Nîmes, c'est pareil, un gamin de 10 ans. Et on pourrait multiplier les exemples. Enfin, c'est inentendable.
Vous êtes en train de nous dire que les quartiers populaires sont en train de...
Mais toute la ville.
Toute la ville.
Mais pas que les quartiers populaires. Ouais. Bah, si vous connaissez un peu Marseille, oui, les quartiers populaires, il y en a partout. C'est pas une ville cloisonnée, il y en a partout. Donc on a quand même 50 morts aujourd'hui, 50 morts, plus de 100 blessés. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant.
Et les quartiers populaires marseillais, notamment les quartiers nord, sont un fief aujourd'hui du Rassemblement national.
Oui. Qu'est-ce que vous disiez, Baya ?
Il y a des règlements de compte. Je peux le concevoir, je peux le comprendre. Ça se passe dans la rue, c'est pas d'aujourd'hui. Mais chez elle. Mais on sombre, on est complètement en train de sombrer. Mais je vais vous dire, les politiciens, encore une petite aparté, je ne vais pas rester dedans parce que la politique reste à la politique et on ne pourra jamais rien faire. Il y avait des maisons de quartier, il y avait plein de choses, mais ils les ferment tous. Ils ferment tous, un par un, il n'y a plus rien pour les jeunes.
On est entièrement d'accord. Nous payons.
Mais même les licences de football, elles sont hors de prix. J'ai deux adolescents à la maison, c'est un combat tous les jours, parce qu'ils veulent sortir, ils veulent sortir, ils veulent goûter à tout, c'est un combat. C'est un combat pour nous, pour nos enfants.
Absolument.
Merci Baya pour ce précieux témoignage.
Donc vous êtes
pas étonné que Marine Le Pen soit propulsée pour 2027
Pas du tout.
Vous savez que c'est le souhait de beaucoup, des quartiers populaires.
On a tout fait pour que les quartiers populaires expriment leur colère. Je veux dire, elle a mis le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est-à-dire la fin des systèmes associatifs. On a coupé les budgets aux associations au sein des quartiers. On a enlevé les commissariats par mesure budgétaire. Et aujourd'hui, on a une ville où il n'y a plus de services publics, on n'a plus de police, on n'a plus rien. Et on s'étonne que les cités, les quartiers soient mis en coupe réglée par des bandes de mafieux.
Alors, Radon Koura connaît bien les quartiers populaires. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement sur ce que dit Baya ?
L'électorat français est un électorat qui est mobile. Finalement, l'électorat de Marine Le Pen, c'est le même électorat qui votait à l'époque pour les partis traditionnels de gauche. C'est
communistes notamment.
Ben, les fiefs du nord de la France sont aujourd'hui tous entre les mains de députés du Rassemblement national. Mmh. Et c'est des blocs entiers d'électeurs qui se sont déportés vers Marine Le Pen. C'est déjà le résultat d'une stratégie de dédiabolisation. Marine Le Pen a pris un virage qui semble être un virage à gauche à partir du début des années 2010. L'autre point, c'est l'absence d'offres politiques à gauche. L'électeur de gauche, aujourd'hui, ne sait plus pour qui voter. Entre Emmanuel Macron, le libéral, ou Marine Le Pen, la sociale, beaucoup de personnes votaient et croyaient en la gauche à l'époque pour des raisons sociales, des raisons économiques, pour des raisons de fracture sociale. Aujourd'hui, la seule qui parle de fracture sociale et qui tente de créer une nouvelle entente républicaine, c'est son discours.
Merci.
C'est Marine Le Pen.
On va avancer parce qu'on a beaucoup d'appels, justement, je voudrais les entendre.
Mais vous savez, je vais te dire une dernière chose.
Dites-moi.
Vous savez, au quotidien, moi j'ai des voisins avec qui j'ai grandi, j'ai mes collègues. Mais ils me disent, tu sais, Baya, on vous aime bien, vous les Maghrébins, on vous aime bien, il n'y a pas de problème, mais on ne peut pas rester comme ça. C'est pas contre toi, mais nous, on est obligés de voter Marine Le Pen. On ne peut pas rester comme ça.
Ouais.
Mais quand vous entendez ça, mais je ne sais même pas quoi l'impression, en fait. Vous savez, on vous aime bien, on va au Maroc, on va en Algérie, on vous connaît, vous, votre famille, il n'y a pas de souci, mais on ne peut pas rester comme ça. Ils nous disent, il faut que ça change. C'est pas contre vous. Mais on est obligé de voter Marine Le Pen. On ne peut pas rester comme ça. Bon. Vous voulez répondre quoi ?
Vous allez voter Marine Le Pen à la prochaine élection présidentielle ?
C'est un peu tôt, là, je pense.
Hein. Absolument pas. Bien, je ne voterai pas Marine Le Pen.
Si l'élection présidentielle... Si l'élection présidentielle avait lieu demain, pour qui voteriez-vous ?
C'est un peu tôt, là.
Très bien, c'est pour ça qu'il y a un isoloir. Mais je me permets de vous poser la question.
Mais c'est un peu tôt, là.
Mais vos réponses vous appartiennent.
Merci Maya d'être intervenue, merci. Allez, on va aller du côté. Merci, bonne soirée également. On va aller du côté du 69. Auria, bonjour Auria, bonsoir.
Bonsoir,
bienvenue. Quelle ville du 69 ?
Lyon, en fait, je suis lyonnaise.
Lyonnaise, Auria, on vous écoute. Bienvenue concernant Marine Le Pen, qui est propulsée en tête élections présidentielles de 2027.
Bonsoir déjà à tout le monde, à tous les auditeurs.
Bonsoir.
Et auditrices. Eh bien, écoutez, le discours de Rabeya, franchement, elle est très, très bien. Mmh. Franchement, je ne peux rien dire parce qu'effectivement, Marine Le Pen sera présidente de la France. Mmh. Et on va être dans la merde.
Mais je crois que votre message doit aussi s'adresser à tous les partis de gauche qui ont complètement oublié l'électorat populaire, qui se sont perdus. On entend Rousseau ou Mélenchon ne parler que ou de théorie du genre ou de wokisme ou de tomber dans des débats qui n'intéressent qu'une partie infinitésimale de la population. On n'entend pas un mot. Enfin si, on les entend sur la précarité, mais comme par hasard, lorsqu'il y a eu des mouvements sociaux importants, moi j'en reviens toujours aux gilets jaunes, ils ont été totalement absents. Ils ont loupé ce virage et je pense que l'électorat populaire ne leur pardonne pas.
Voilà Auria.
Et puis surtout, le plus important, c'est qu'on nous pointe systématiquement du doigt. Notre religion musulmane est pointée le vestimentaire. C'est qu'en France, on a ce genre de soucis. On ne nous aime pas.
C'est votre sentiment.
Voilà. Normalement, mon sentiment,
c'est plus compliqué que ça.
Moi, et puis moi, je me sens française. Hein. Je suis française.
Vous êtes française,
mais tant mieux.
Mais franchement, je préfère à la limite une Le Pen qu'un Zemmour. Voilà, qu'est-ce que vous dire.
Ouais. Bon, ben merci Auria d'être intervenue.
Je vous en prie.
Je vais accueillir Hamid de Stein. Bonjour Hamid.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue. Oui. Vous nous appelez de Stein. Il y a Radouane et Jean-Pierre qui vous écoutent. Ils sont là sur le plateau. On vous écoute.
Voilà. Donc, les deux intervenantes avant moi m'ont beaucoup facilité le travail. Et donc, voilà. Ce n'est pas une surprise. Ça ne sera pas une surprise. Ça devait arriver et ça arrivera un jour. Moi, mon souhait, c'est que ça arrive le plus tôt possible.
Pourquoi?
Parce que qui nous aime, qui nous aide, qui nous soutient? Personne. Ils nous ont fait croire qu'ils nous aimaient, qu'ils nous soutenaient, qu'ils étaient avec nous, les socialistes, les communistes, les machins et les trucs. Et finalement, c'est des opportunistes. Regardez.
Vous dites quand vous dites nous aimer, c'est les franco-maghrébins, quand vous dites nous.
Oui, voilà, exactement.
Qu'on comprenne, mais qu'on comprenne.
Non, pas que les franco-maghrébins. Pas que les franco-maghrébins.
Les Français issus d'immigration.
Parce que maintenant, le cercle s'est agrandi à toute la sphère musulmane. Mmh. Et dans musulmans, il n'y a pas que arabe et pas que nord-africain et pas que... Alors, voilà.
Hamid.
Donc maintenant, le langage c'est libéré. Donc on est la cible de tout. Des gens que vous connaissez et qu'on voit à la télé le matin, midi et soir. Donc le fait qu'on ait un gouvernement ou un chef d'État de l'extrême droite, ça nous permettra au moins d'identifier l'adversaire et de le combattre à armes égales.
Eh ben je vais laisser.
Vous avez, un Gabriel Attal qui vient du Parti Socialiste et qui essaye de cacher tous les problèmes qu'il a à la rentrée scolaire par le problème de la baïa, excusez-moi, mais les socialistes, ils doivent vraiment... vous savez, là, en région parisienne...
Mais ça, c'est Lionel Jospin a soutenu cette interdiction de la baïa à l'école.
Exactement, il n'y a pas que... Voilà. Donc, si vous regardez la carte électorale, enfin, la carte de l'Île-de-France, les régions ou les zones qui votent à gauche, c'est où? C'est le 93 et le nord de Paris. Une partie du 17, le 18, le 19 et le 20.
Merci, Hamid. Merci, Hamid. Il faut que je lance.
C'est là où il y a le plus de problèmes.
Absolument. Merci, Hamid, d'être intervenu et merci pour ce témoignage. Je laisserai à Radouane Courac et à Jean-Pierre Colombiès de réagir aux propos de Hamid. Très important ce qui vient d'être dit. Hein. 0153483000, vous nous appelez, vous continuez de nous appeler. Réaction à Marine Le Pen qui est en tête des intentions de vote pour la présidentielle de 2027. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes nombreux. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Il est 19h22 précisément, les informés des quartiers, vous le savez, c'est ici, ça se passe chaque vendredi. On en parle et on continue de parler de ce fameux sondage qui place en tête Marine Le Pen dans le cadre des élections présidentielles en 2027. Nous sommes avec Jean-Pierre Colombier, son ancien fonctionnaire de la police, commandant de la police précisément. Aujourd'hui, il fait du théâtre, il est comédien, mais également face à lui, nous avons Radouane Koura, qui est le journaliste, rédacteur en chef de Opinion International. Nous allons accueillir, s'il vous plaît, tout de suite, avant de retrouver évidemment beaucoup d'auditeurs, hein, 01 53 48 3000, Nassera du 78. Bonjour Nassera.
Bonjour, bonjour à vos invités.
Vous nous appelez de quelle ville,
bonjour,
Nassera?
Bonjour.
Saint-Germain-en-Laye.
On vous écoute, bienvenue à vous.
Merci. Eh bien, moi, je voulais dire que j'étais d'accord avec tout ce qui avait été dit par les précédents intervenants. C'était très pertinent. Je voulais préciser que, à mon sens, M. Macron a fait tout le travail à la place de Madame Le Pen. Elle n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit, puisqu'il s'en est chargé, M. Macron. Et je pense que, malheureusement, elle sera la prochaine présidente. Tristement, j'en suis vraiment désolée, et à ce moment-là, ben, les musulmans et tout ce qui aura un faciès non blanc, ben, on va souffrir, on va énormément souffrir au niveau travail, au niveau aide sociale, parce que les aides sociales, c'est quand même important.
Ah, on a été coupé. On a été coupé avec Nassera, je ne sais pas ce qui se passe, problème avec la ligne.
Monsieur, je voudrais vous...
Revoilà.
Allô ?
On a un petit souci, on a eu un petit souci de communication avec vous, de ligne.
Ah, d'accord, et là vous m'entendez ?
Oui, pour clore, qu'est-ce que vous disiez ?
Donc je disais que j'étais tout à fait d'accord avec les précédents intervenants, que Monsieur Macron a préparé le terrain pour Madame Le Pen. Elle a rien eu à faire et elle va être élue très très facilement. Et puis avec les histoires d'Abaya et les histoires qui ne tiennent pas debout, tous les jours on monte les émigrés, les personnes d'origine émigrée, ou même y compris de troisième et de quatrième génération contre ceux qui seraient plus blancs que blancs. Et je pense que si Madame Le Pen est élue, et il est fort probable, ça va être très difficile pour tous ceux qui ne seront pas extra blancs. Ça va être difficile au niveau travail, au niveau scolarité, au niveau aide sociale. Et c'est triste à dire, mais on voit bien que la précarité, elle augmente et elle va augmenter encore plus. Quand on voit le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur, par exemple, ou d'autres associations, et ben, je pense qu'avec Madame Le Pen, ça va être vraiment très, très difficile de vivre en France pour les personnes qui ne seront pas françaises de souche. Et j'espère qu'elle ne passera pas, mais à mon avis, Macron a tout fait pour. Voilà.
Merci pour votre témoignage, Nassera. Radouane Koura, réaction, vous savez, aussi à, n'oublions pas, celui qui nous appelait de Stein,
bien sûr,
tout à l'heure.
Mais là,
évidemment, qui à midi s'appelait.
En début d'émission, je parlais de la dédiabolisation entreprise par Marine Le Pen, dédiabolisation qui finalement est en train de réussir. Aujourd'hui, le Rassemblement National a un groupe à l'Assemblée nationale, à 89 députés. Les Français aiment l'ordre, ils viennent en costume, ils ne perturbent pas les séances, à la différence de la France insoumise. Mais il y a la dédiabolisation et la diabolisation. C'est aussi la conséquence des médias et des responsables politiques depuis de nombreuses années. Pendant des années, depuis tout à l'heure, j'écoute nos auditeurs, beaucoup ont visiblement très très peur de l'arrivée de Marine Le Pen. Certains décrivent presque un état d'apartheid si Marine Le Pen venait à arriver au pouvoir. C'est... Pendant des années, avoir dit Marine Le Pen c'est pas bien, Le Pen c'est les nazis, Le Pen c'est dangereux, ça n'a pas contribué à faire descendre Marine Le Pen ou le Rassemblement National dans
Jean-Pierre.
Les sondages. Oui. Bien au contraire, ça n'a fait que faire progresser le Rassemblement National, et les Français ne sont pas dupes. Aujourd'hui, Emmanuel Macron et consorts n'ont aucun autre argument que de dire Le Pen c'est les nazis, Le Pen c'est Pétain, et ça ce n'est pas de l'opposition politique, je suis désolé.
Jean-Pierre Colombiès.
Oui, alors bon, je pense que faut être très prudent dans ce qui est en train de se passer, dans ce qu'on est en train de dire, bien évidemment, parce que les paroles ont un sens.
On est dans la politique fiction.
Voilà, on est un peu dans la politique fiction. D'abord, ils sont pas encore là. D'abord, je rappelle quand même qu'il y a des oppositions et que si demain Marine Le Pen est élue, il y aura face à elle des organisations constituées, des associations, des syndicats et des partis politiques. Donc, ne partons pas dans une idée cataclysmique. C'est pas l'apocalypse si demain Marine Le Pen est élue. Mais je précise quand même quelque chose. C'est que si on en est arrivé là, c'est qu'on a eu pendant des décennies une forme de réflexe absolument débile de ce que j'appelle moi, de ce qu'on appelle certains le Front Républicain, et ce qui fait qu'en fait on a empêché les élus du Front National d'être élus à des postes comme des grandes mairies par exemple, ou des postes à l'Assemblée Nationale préalablement ou au Sénat. Résultat des courses, on n'a jamais pu voir les membres de ce parti à l'œuvre. Donc de fait, il reste toujours l'interrogation majeure de savoir ce qu'ils seraient en capacité de faire. Et donc effectivement, les responsables sont bien toute cette classe politique qui a cultivé un quant à soi très confortable, et je pense notamment à la gauche qui a systématiquement appelé à voter contre et qui est un des artisans involontaires. C'est peut-être ça partait peut-être d'une bonne volonté, mais ça a une conséquence catastrophique, c'est qu'aujourd'hui, eh ben, on ne sait pas ce qu'ils valent, tout simplement, et que les gens vont voter très probablement pour le Front National en disant, pour punir une forme de vote sanction, mais réelle, contre tous les partis politiques et des politiciens qu'ils ont voulu marginaliser. Et quand on voit effectivement comment se comporte Emmanuel Macron et les gens qui l'entourent, parce qu'il y a toute une association politique là derrière lui, je suis désolé, ce que fait Darmanin, ce que fait un Dupond-Moretti, ce que fait un Macron même au cours des manifestations, on en a beaucoup parlé ici, bah, je suis désolé, c'est pas mieux. Ou du moins, les gens se posent la question de savoir si ça pourrait pas être mieux.
On va continuer d'accueillir nos auditeurs. Karim de Tremblay, bonsoir Karim. Karim ? Karim Visiblon.
Oui, bonsoir, excusez-moi. Ah, oui, bonsoir.
J'ai failli vous appeler.
J'avais jamais passé.
Vous êtes nombreux, c'est normal, vous êtes très nombreux à nous appeler ce soir.
C'est bien, tant mieux pour vous.
Bah, tant mieux pour la radio, tant mieux pour tout le monde, et tant mieux pour vous. On vous écoute, Karim.
Oui, alors plusieurs choses. Moi, j'écoute depuis tout à l'heure les auditeurs et j'en arrive au constat que c'est toujours le même refrain qu'on entend. C'est-à-dire que les gens ont peur que Marine Le Pen soit au pouvoir. Sauf que, enfin, je suis désolé de vous le dire, mais elle est déjà au pouvoir. Je m'explique.
Karim Kourak nous a rappelé qu'ils étaient 89 députés.
Radouane, donc
ils sont. Radouane, pardon.
Non, je ne parle pas des députés.
Non, mais je crois qu'il ne parle pas de ça. Laissez-le finir, il ne parle pas de ça.
Allez-y.
Voilà, je ne parle pas des députés. Je parle des idées.
Oui.
C'est-à-dire que les idées de Marine Le Pen, ceux qui en parlent le mieux, c'est les opposants. Les opposants, comme aujourd'hui le gouvernement actuel. Quand on entend M. Darmanin, quand on entend certains ministres, je suis désolé, il n'y a pas besoin d'avoir Marine Le Pen au pouvoir.
C'est quoi les idées de Marine Le Pen, Karim ? Quand vous dites que les idées de Marine Le Pen sont au pouvoir,
c'est quoi les idées
l'injustice, l'injustice au niveau social, au niveau de certaines populations. Populations des quartiers sont toujours pointées du doigt. Certes, à raison ou à tort, mais enfin bref. Quand on voit les médias mainstream 24h sur 24, on nous rabâche toujours les mêmes sujets sur l'islam, sur l'immigration, ce genre de choses. Comment voulez-vous qu'un Français devant son poste de télé ne devienne pas, réfractaire à tout ça? C'est normal, c'est humain. Et les sujets qui sont traités en dehors des élections, en général, c'est quoi? C'est toujours les mêmes. Par contre, quand vous regarderez bien, on l'a vu aux dernières élections présidentielles, quand on a le temps de parole qui est égal pour tout le monde, c'est-à-dire que la France insoumise était à peu près, enfin, au même niveau de temps de parole, comme par hasard, elle est montée. Alors qu'avant ça, et après ça, maintenant, avec son élection actuelle, elle baisse. Comment vous expliquez tout ça? C'est du rabâchage de cerveau. Donc, on rabâche aux gens... ce qu'ils veulent entendre ou ce qu'ils veulent pas entendre. En tout cas, bref, c'est toujours le même sujet. Donc forcément, à un moment, ça dans les têtes, c'est plus possible. Donc on nous parle de violence tout le temps, des faits divers.
Tout ça est malheureusement lié à l'actualité, Karim. Nous, journalistes, ne faisons que relayer l'actualité.
Excusez-moi, Redouane. Mais je suis désolé, quand on parle toujours des mêmes sujets... Forcément, à un moment, c'est plus possible. Même les auditeurs qui vous parlent depuis tout à l'heure vous disent oui, c'est vrai, c'est plus possible. Voilà, c'est normal.
Vous pensez qu'il faudrait nécessairement filtrer certains faits d'actualité? Ce n'est ça, c'est simplement des faits divers, des faits d'actualité.
Moi, je constate simplement, j'ai pas la solution miracle. Je constate simplement que les sujets, c'est pas des sujets importants aux yeux des Français qui sont traités. Regardez, comme monsieur Colombias l'a dit tout à l'heure, on parle pas des vrais sujets qui inquiètent les gens, c'est-à-dire l'avenir de leurs enfants.
C'est Jean-Pierre.
L'école, quand on en parle, on parle de la veille. Je suis désolé, c'est pas normal. C'est pas normal pour un...
Merci Karim.
Ils font ça depuis 20 ans.
Karim, je suis Jean-Pierre.
Très rapidement.
Karim d'être intervenu. Hein, je vous libère.
On a entendu des personnes qui sont d'origine maghrébine, à l'évidence, mais faut pas perdre de vue que beaucoup de ces personnes vont voter Le Pen. Pourquoi? Où ça se passe justement les règlements de compte et les tensions les plus gravissimes, règlements de compte, tout ça? Ça se passe dans des cités, dans des quartiers très populaires où il y a une majorité. Il y a énormément de populations issues de l'immigration. Et ces gens-là voteront Rassemblement National.
On continue d'avancer. Il y a Mohamed de Paris. Bonsoir Mohamed.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir,
bienvenue, Mohamed. On vous écoute, mon cher Mohamed.
Voilà, donc, faut être sérieux. Est-ce que la France, le destin de la France se joue sur un seul et unique sondage? On a bien vu, on a un échantillon. Zemmour, oui. On le mettait à combien?
Au départ, il était à 18 à peu près.
Sauf que là, la différence, c'est qu'elle est proche du pouvoir, là. Elle a quand même fait les qualifs à chaque fois.
Comme d'habitude. Moi, je dis qu'il faut détendre, les amis. Ni elle passera, ni elle sera au pouvoir, ni rien du tout.
C'est une vision optimiste.
Jean-Pierre, vous parlez, Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous lui dites, Jean-Pierre? Il s'appelle Mohamed. Attendez, il y a Jean-Pierre.
Oui,
Jean-Pierre.
Bonsoir, Mohamed, bonsoir.
Bonsoir, Jean-Pierre.
C'est vrai, vous avez raison, les sondages sont très souvent disent à peu près n'importe quoi. Rappelez-vous, Pécresse était crédité de 18 à 19% le lendemain de son annonce de candidature.
Et elle finit à 4,8 et endettée de 2 milliards.
Exactement.
2 millions, pardon.
Pour autant, je rappelle quand même. Millions, ouais. Alors effectivement, il a raison, Zemmour, mais c'est pareil, c'est la même mécanique de sondage hier, c'est-à-dire dès que vous annoncez votre candidature, il y a un bond au niveau des sondages. Pour autant, Zemmour, au final, fait plus de 8% et c'est les 8%. Ça représente la totalité des voix de gauche. Rappelez-vous, c'est effrayant, le Parti Socialiste fait 1,7.
Monsieur Jean-Pierre, c'est normal ça.
Attendez, écoutez-le, c'est normal.
Monsieur Jean-Pierre, qui a des élus du Front National à l'Assemblée Nationale, moi je trouve ça normal. Je vous le dis tout de suite. Moi je suis pour qu'il y ait des élus du Front National, ça donne la parole à tout le monde, ça fait un débat contradictoire.
Toutes les opinions sont désormais représentées dans notre pays.
Avant, tout était en sous-marin. Tout le monde cachait ses idées, il y avait le discours derrière les salons et même discours à la télé. La preuve, François Hollande disait des choses qu'il ne disait pas en direct. Et c'est le monde qui l'a révélé. Il y avait un problème avec les musulmans, une certaine partie de la communauté musulmane et tout.
Alors, on connaît tout. Avant de lancer la pause, Mohamed, le mot de la fin, dites-nous, avant de vous libérer.
Mais elle sera jamais présidente, vous arrêtez.
Elle ne sera jamais présidente. Bah, j'espère que vous aurez.
Mohamed a souligné une chose. Ouais. Sur les sondages...
Merci Mohamed pour votre intervention. C'est pas mal, Mohamed.
Si on avait écouté les sondages sur ces 20 dernières années, vraisemblablement Dominique Strauss-Kahn aurait été président de la République et Alain Juppé lui aurait succédé.
S'il n'y avait pas eu l'affaire du Carlton.
On ne fait pas de projection 4 ans avant une élection présidentielle.
Il aurait été président, ça c'est sûr.
Allez messieurs, on marque la dernière pause avant de se retrouver pour la dernière ligne droite. Beaucoup d'appels, c'est vrai, et ça fait plaisir. 53 48 3000. Cela prouve évidemment qu'il y a un besoin réel que les auditeurs s'expriment sur l'antenne de Beurre FM, dans les informés des quartiers. On se retrouve avec Jean-Pierre Colombiès, mais également Radouane Courac. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés, vous le savez, c'est avec vous, 0153 48 3000, mais également Jean-Pierre Colombiès, ancien fonctionnaire de la police, ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui comédien, il est en pleine pièce de théâtre, donc il nous en parlera tout à l'heure. Face à lui, c'est Radouane Courac, qui lui est le journaliste rédacteur en chef d'Opinion Internationale. Transition avec ce sujet, c'est la crise, grand point d'interrogation. On peut parler aussi d'échec, grand point d'interrogation. avec Meloni, vous savez, en Italie, celle qui avait dit qu'il allait effectivement réguler ce et puis agir en direction de ce fléau. Souvenez-vous de cette phrase, notamment lorsqu'elle était en pleine campagne. Lampedusa aujourd'hui, la crise migratoire prend de l'ampleur et vous savez, tous les acteurs politiques se sont emparés du sujet. Messieurs, est-ce qu'on peut parler d'un échec? Est-ce qu'on peut parler d'une crise migratoire? Est-ce qu'on peut parler que l'Europe a échoué sur ce sujet? Radouane Courac, Jean-Pierre Colombiès.
Oui, on peut clairement parler d'un échec. Et là, on est seulement au début de la vague migratoire qui arrive. C'est 6000 migrants, ce n'est rien du tout par rapport à ce qui va arriver. Et 6000 migrants, c'est 100% de l'île italienne. C'est une île qui a une population de 6000 habitants. C'est 100% d'immigration qui arrive d'un coup. C'est comme si vous aviez 2 millions de personnes qui débarquaient d'un coup à Paris. Là, on est simplement au début de cette crise migratoire. Mais il y a une chose, moi, qui m'a interrogé en regardant les images. De quoi est constituée cette immigration et de qui? C'est une immigration qui est majoritairement constituée d'hommes qui arrivent, qui prennent des risques parfois inhumains. Il faudrait dissoudre ces filières clandestines qui font passer des gens par la mer au péril de la vie de ces hommes. On bafoue clairement les droits humains. Et surtout, c'est une immigration, je le disais, qui est composée majoritairement d'hommes. Et on nous parle souvent de réfugiés politiques, mais il y a beaucoup de personnes qui viennent de Côte d'Ivoire. Je regardais ce matin les images sur BFM TV. En Côte d'Ivoire, il me semble que la situation politique est plutôt stable.
Elle est stable.
Ça m'amène à une expérience que j'ai eue à l'hôtel de ville de Paris.
La croissance économique plutôt stable.
La croissance économique vient de reprendre, mais à l'hôtel de ville de Paris, dans le cadre d'un reportage que je réalisais pour Opinion Internationale, pour mon journal, c'était le petit moment pub, j'ai échangé avec des migrants. Il y a plusieurs camps qui se sont installés, dont un camp de Tunisien. J'échange avec un monsieur qui était architecte en Tunisie, qui avait plutôt une bonne situation en Tunisie, qui se retrouve du jour au lendemain à faire la manche à l'hôtel de ville de Paris. C'est qu'on a vendu pendant des années un Eldorado. En France, il n'y a pas d'Eldorado. Il faut que ces gens l'assimilent, le prennent en compte. Et surtout, c'est un choc culturel qui nous attend.
Jean-Pierre Colombiès, effectivement.
Oui, non, mais c'est clair. Oui, là ça devient.
Jordan Bardella totalement... a fait une déclaration en disant que ce n'est que le début.
Oui, c'est le début. Il a raison.
C'est devant nous. Et je crains qu'il ait raison.
Non, mais quand on s'intéresse un peu au sujet de ce futur phénomène des migrations de masse liées notamment aussi au changement climatique, mais pas que, hein, c'est aussi ça, c'est un peu la tarte à la crème. Il y a aussi une difficulté qu'on n'a pas anticipée, que l'Europe, le monde n'a pas anticipée, c'est le développement économique de la plupart des pays africains. Il y a un gros problème à ce niveau-là. Ces pays-là n'arrivent pas à retenir leurs ressortissants, tout simplement parce que il y a des systèmes sociaux qui sont pas équivalents aux nôtres. Alors c'est vrai que l'Europe apparaît comme une forme d'Eldorado, comme tu l'as dit fort justement. C'est un peu le paradis. L'Angleterre, la France apparaissent comme une sorte d'Éden.
Ça apparaît comme l'Eldorado et quand les gens arrivent ici, ils se retrouvent à faire la manche à l'hôtel de ville ou boulevard Magenta à Paris.
Oui, parce que malgré tout, il y a des chômeurs et on peut pas remplir. Alors maintenant, il y a autre chose quand même. Il y a beaucoup d'autres choses. Moi, ce que je crains, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein, Georges Marchais l'a dit déjà en son temps, il y a très longtemps. Ce que je crains, c'est qu'aussi ça serve aussi d'appel d'air de ce qui sera une future main d'œuvre à très très bon marché qui va permettre d'alimenter un certain nombre de secteurs économiques qui n'a pas envie du tout de revaloriser les salaires. Et là, il y a un vrai danger social. Il n'y a pas simplement un futur danger communautaire, parce qu'il y aura des problèmes communautaires, parce que ces nations ne s'entendent pas entre elles non plus. C'est pas la paix sociale non plus qui règne
en
Afrique.
Alors finalement, est-ce que Madame Meloni a échoué?
Mais c'est pas elle qui a échoué, c'est l'Europe qui échoue.
L'Europe
échoue globalement. Elle n'arrive pas à gérer les frontières. Alors pourquoi l'Italie? C'est simple, il suffit de regarder une carte. L'Italie,
on a une agence qui s'appelle Frontex. Normalement, c'était le travail de Frontex de contrôler
les
frontières.
Ils sont totalement débordés.
Non, Frontex aujourd'hui ne fait rien d'autre que de récupérer les bateaux,
oui,
de migrants, les
port,
sauver
voilà,
et les ramener au port. Ce n'est pas une solution.
Mais
il faut les sauver, c'est de l'humanité, certes, mais ces gens ne peuvent pas rester sur le territoire européen.
Non, le truc, c'est que l'Italie, bien évidemment, est sur le front de la situation, puis sont en face de la Tunisie. Il y a quand même une responsabilité internationale à relever. À quoi joue la Tunisie? Les ports devraient être contrôlés, ils ne le sont pas. La Libye est aujourd'hui un pays anarchique, merci Sarkozy, parce qu'on a complètement dézingué, fait exploser les Libyens qui contrôlent ça.
De week-end.
Voilà, non, mais c'est une réalité. Il faut savoir aussi qu'il y a un racisme qui devient de plus en plus prégnant dans ces pays-là. Je pense à la Libye et à la Tunisie aussi, qui elle aussi souffre d'une immigration qui n'est pas contrôlée, parce qu'elle se retrouve avec ces populations subsahariennes qui l'envahissent. On sait qu'il y a eu des troubles et il y en aura encore. Il n'y aura pas que la Tunisie, à mon avis, qui sera touchée. Beaucoup. Et donc, c'est, voilà. Donc, il y a une hypocrisie aussi de l'Europe qui, à mon avis, voit ça d'un œil pas si mauvais que ça, parce que ça va faire de la main-d'œuvre bon marché et que ça va, pour certains, permettre de payer les retraites de demain, parce qu'il y a des populations vieillissantes.
Alors, sur la crise migratoire à Lampedusa, Jean-Dan Baldella appelle Emmanuel Macron à ne pas accueillir un seul migrant. Finalement, est-ce que l'exécutif, le gouvernement, est en train d'échouer sur ce sujet?
Mais le gouvernement est parfaitement en train d'échouer sur le sujet. Et moi, j'ai vu toute la gauche s'exciter, notamment aujourd'hui sur Twitter, face aux propos de Jordan Bardella. Je le dis en étant parfaitement calme. C'est ni raciste, ni discriminatoire, les propos de Jordan Bardella sur ce cas précis. Jean-Pierre, tu l'as souligné, tu as parlé de Georges Marchais. À l'époque, oui, la gauche, oui, tout à fait, oui, la gauche disait ce que Georges Marchais dit aujourd'hui. Aujourd'hui, la gauche de Jean-Luc Mélenchon est devenue une gauche qui ne parle que des sujets woke, de sujets qui n'intéressent d'ailleurs personne. La gauche est sectarisée. Elle est devenue, la gauche est devenue absolument woke et rien d'autre. Aujourd'hui, la gauche n'a plus rien à proposer si ce n'est son wokisme et sa complaisance, parfois, disons-le, avec un islamo-gauchisme.
Tout à fait. C'est triste, mais c'est une réalité.
Ouais, c'est la réalité. C'est la réalité de ce pays.
Je pense que ceux de gauche qui entendent cette émission ne doivent pas être très contents, mais je suis désolé, c'est la pure réalité. Et il serait vraiment temps qu'ils arrêtent de dire à peu près n'importe quoi, de laisser la parole à une Sandrine Rousseau qui monopolise totalement l'espace média. Mais vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi ça m'a été dit par certains journalistes?
Dites-moi.
On laisse parler Sandrine Rousseau pour les âneries qu'elle va dire. Mais parce qu'elle fait le buzz. Mais de propositions, malheureusement, il n'y en a pas. Que proposent les écolos par rapport à ça? Sandrine Rousseau. Par un angélisme.
Sandrine Rousseau, c'est là. Sandrine Rousseau, Jean-Luc Mélenchon, tous ces gens, c'est l'alliance entre l'islamo-gauchisme et le wokisme. C'est ni plus ni moins. Moi, cette partie s'appelle Europe Écologie Les Verts. Il ne parle ni d'Europe, ni d'écologie, et il n'est même pas vert.
Et très rouge à l'intérieur.
Et il est très rouge. C'est des pastèques, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur.
Clochette.
Non, mais il a raison.
Monsieur, je vous pose la question, finalement, est-ce que l'Europe ne va pas traverser une terrible crise politique?
Elle est en crise.
Mais de plus en plus.
Elle est en crise. Déjà, il y a l'échec total du mariage franco-allemand qui n'a quasiment jamais existé. L'Allemagne ne s'est jamais sentie solidaire de la France. On le voit avec les problématiques de l'armement. On le voit. Enfin, l'Allemagne, elle a bien raison. Fait passer en priorité ses propres préoccupations socio-économiques. On voit à quel point, justement, en matière d'écologie, tu parlais d'écologie, c'est un échec total par le refus de l'énergie nucléaire. Et aujourd'hui, il développe l'industrie du charbon qui provoque également des problèmes d'écologie chez nous, en France.
C'est un échec économique, politique, culturel et civilisationnel qui est devant nous.
Tout à fait.
Et moi, je réponds à tous ceux qui jouent les humanistes depuis quelques jours face à la situation qui arrive à l'Italie, puisque l'Italie, c'est la porte de l'Europe. C'est très important. La France, c'est un pays dans lequel il y a 330 000 SDF. Vraisemblablement, une partie de ces gens vont vouloir venir en France. Dans un pays dans lequel il y a 330 000 SDF, des centaines de camps de migrants aménagés, la France n'est plus en mesure aujourd'hui d'accueillir le monde. Et pour reprendre une citation célèbre de Michel Rocard, la France n'a malheureusement pas vocation à accueillir toute la misère du monde.
Et ça risque de poser un problème majeur, je pense, aux populations immigrées installées en France depuis très longtemps, qui sont assimilées, qui ont adopté un système de vie qui est œcuménique, c'est-à-dire qui respecte les idées et les sensibilités des uns et des autres. Ce choc migratoire peut bousculer tout ça.
Ces gens qui arrivent veulent arriver avec leur culture et bousculer nos codes occidentaux et nos codes traditionnels.
Tout à fait.
En France, on veut vivre ensemble,
parce que je suis désolé, à chaque fois j'entends beaucoup de choses qui me font mal. On veut systématiquement taxer la France d'un racisme endémique.
La France est le pays le moins raciste du monde.
Merci de l'entendre sur cette antenne.
Ça fait plaisir. Hein.
Oui, ça fait plaisir parce que je serais peut-être pas là, non, Adil, si c'était le cas. Non, je sais pas.
Vous avez raison. Je voudrais qu'on aborde, vous savez quoi, une menace. Une menace qu'il faut prendre certainement au sérieux. Je vous pose la question des menaces explicites. Le groupe Al-Qaïda reproche à la France et à la Suède d'être en guerre contre l'islam. Alors, c'est une publication très sérieuse, une publication de propagande où les djihadistes menacent de s'en prendre à un ministère à Paris. Mais pas que, aussi à d'autres endroits, parce que le groupe djihadiste reproche justement à la France d'être en guerre contre l'islam. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux justement cette menace contre la France, Radouane Courac?
Mais déjà, la menace n'a jamais disparu. Cette réalité, beaucoup l'ont oublié, mais finalement, le terrorisme islamiste, n'a jamais disparu. Il est présent partout sur les réseaux sociaux. Il est omniprésent.
Donc il faut prendre au sérieux la
menace. Il faut la prendre au sérieux. Et en plus, le chef d'accusation est absolument faux.
Il faut plutôt les prendre au sérieux.
Ouais. Les musulmans de France vivent très bien. Un grand nombre de musulmans vivent très très bien. Un grand nombre de musulmans se sentent français et musulmans et n'a aucun problème, ne pense pas que la France est un pays islamophobe. Moi, j'en ai marre que l'on prenne des mots, que l'on rajoute des phobes, des istes derrière. Ça n'existe pas. Il faut arrêter.
Jean-Pierre,
Moi, je suis tant pis pour ceux qui font leur fonds de commerce avec ce genre de slogan. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. Je suis désolé, il y a malgré tout un vivre ensemble assez global en France. Par contre, oui, effectivement, il faut être très, très, très vigilant avec
ces
appels.
Vous, l'ancien fonctionnaire de police,
bien sûr,
prendre le truc au sérieux.
Ah, mais clairement, parce que... Tu parlais du groupe islamiste, c'est pas vraiment un groupe, c'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse qui est transnationale et qui envoie un message de haine, et ce message de haine va être entendu, il faut le dire.
Merci clairement. À vous, franchement c'était un plaisir de clore le week-end avec vous. C'était top, bravo à Radouane Courac.
Merci mon cher.
Bravo à Jean-Pierre Colombès.
Merci à vous
merci
de pouvoir débattre ici.
Merci aux nombreux auditeurs, merci chers amis auditeurs, on remet ça lundi. Merci à la réalisation. Au brillant. Il est de plus en plus brillant, hein, notre ami Solal. Hein. Non, mais c'est vrai, il est au taquet. Il a fallu gérer le standard. Il était là, j'ai lancé le face-face. Jingle, paf. Non,
le mec, il est le meilleur de sa génération.
Et clochette.
Ah, et clochette. La clochette. Time Sport, c'est Bilal Lendman. 20h, 21h. Ensuite, Vanessa, 21h. Quant à moi, d'abord, deux choses. Je vous souhaite de continuer d'écouter la radio, parce qu'elle continue de vivre le week-end. Il y a Philippe, il y a Manu. Enfin, bref, ils sont tous là pour vous faire vivre les programmes du week-end. Quant à moi, à lundi, avec autant de plaisir, à 19h, mais surtout...
On ne lâche rien.
On ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.